Marc Ribou à la Fondation Carzou, en attendant Pierre Vert.
Dans moins d'un mois, les Nuits photographiques de Pierre Vert ouvriront leur 10e festival avec une programmation digne de l'anniversaire. On y attend la plupart des parrains qui ont illuminé le seul festival dédié à l'image fixe des Alpes du Sud, dans une ambiance conviviale très appréciée. Nous y reviendrons, bien sûr. Mais depuis quelques années, grâce à l'agglomération Manouskine, le festival Pierre Verdant investit aussi les salles de la Fondation Carzou pour des expositions remarquables. Denis Bria l'année dernière, par exemple, et avant lui, Peter Knapp, Sabine Weiss ou encore Hans Sylvester ont accroché leurs œuvres pour des moments exceptionnels. En 2018, c'est un photographe célèbre et attachant qui est de la partie. Décédé en 2016, Marc Ribou a réalisé des clichés connus de tous, comme la jeune fille à la fleur ou encore le peintre de la tour Eiffel, et tellement d'autres sublimes de composition et d'humanité. Pendant plus de 50 ans, il a arpenté le monde à la découverte de pays et de peuples variés, mais il a aussi témoigné des événements marquants en Chine, avec les bouleversements qu'elle a connus, ou en Afrique subsaharienne durant les indépendances, ajoutant à l'esthétisme de ses photos la traduction d'une actualité liée à des instants historiques. Avec plus de 75 clichés en noir et blanc, dont quelques grands formats sur l'indépendance algérienne, la Fondation Carzou invite le visiteur à regarder le monde avec Marc Ribou. Entrée libre et gratuite du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h30, sauf les jours fériés. L'exposition est visible jusqu'au 30 septembre. Lorraine Duret a été l'assistante de Marc Ribou dans les dernières années de sa vie. Elle était présente lors du vernissage de son regard sur le monde. Lorraine Duret, vous avez travaillé plusieurs années avec Marc Ribou. Quel photographe et surtout quel patron était-il ?
Alors, c'était quelqu'un de très généreux de son temps, de son expérience. On était deux assistants à travailler pour lui, en fait, deux jeunes, et il nous demandait tout le temps notre avis, on participait tout de suite, on était jetés dans le bain.
Il écoutait votre avis ?
Pas toujours, mais en tout cas, il le sollicitait et il demandait l'avis de tous les gens qui étaient autour de lui.
Vous n'êtes pas tout à fait de la même génération que lui. C'était un monument lorsque vous avez commencé à travailler avec lui.
C'était un monument, oui, parce que je connaissais certaines de ses photographies depuis le collège, depuis le lycée. On en retrouve dans les livres de classe. Mais comme c'était quelqu'un de très facile d'accès, c'était pas quelqu'un d'impressionnant, d'intimidant en tout cas, pas du tout.
C'était une personne très curieuse, un peu à l'image des photos que l'on voit et en tout cas du résultat qu'il en ressort.
Oui, c'était quelqu'un de très curieux. Il se passionnait pour l'actualité. Quand Obama a été élu aux États-Unis, par exemple, il trouvait que c'était quelque chose de fantastique. Donc il réagissait beaucoup. Il lisait les journaux, il regardait la télévision, les actualités. Et il posait beaucoup de questions. Il s'intéressait beaucoup aux gens autour de lui.
L'exposition qui est accrochée ici à la Fondation Carzou à Manosque, ce sont des photos en noir et blanc. Est-ce qu'il a travaillé sur la couleur et sur autre chose que de l'argentique, par exemple ?
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît surtout ses photographies en noir et blanc, mais à l'époque de ses débuts, dans les années 50-60, il faisait aussi beaucoup de couleurs pour les magazines. Donc on a montré quand même dans l'exposition, dans une vitrine, un exemple des photographies couleurs qu'il pouvait prendre. Mais parfois des photographies couleurs qui ont mal été conservées. Donc on n'a pas forcément tous les originaux, par exemple. Et par la suite, dans les années 70-80, quand il a commencé à exposer son travail, à faire des albums, il a plutôt utilisé les photographies en noir et blanc. Après, au niveau du numérique, il était fasciné par les possibilités d'Internet. Le fait de pouvoir échanger des mails très rapidement avec l'autre bout de la Terre, c'était un outil fantastique pour lui. Il a essayé quelques tirages numériques pour des couleurs qui étaient des originaux diapo, par exemple, pour des raisons techniques. Mais il a toujours photographié en argentique et pour ses expositions, que ce soit en galerie pour des collectionneurs ou dans n'importe quelle exposition, il a toujours essayé de présenter les tirages argentiques tels qu'il les voulait et de la meilleure qualité possible.
Et tels qu'ils sont présentés ici à Manosque.
Oui, c'est ça. Ce sont pratiquement tous des tirages argentiques, donc faits par des tireurs qui le connaissent depuis longtemps, qui ont travaillé avec lui. Et uniquement quelques photographies d'Algérie qui sont des tirages numériques. On avait fait un essai à cette période pour une grande installation de grand format. Et donc là, on remontre certains de ces grands formats ici.
Et cette exposition sur l'Algérie occupe une partie de cette salle ici à la Fondation Carzou. C'est assez magnifique et c'est très impressionnant parce qu'on voit le peuple algérien en pleine mouvance politique.
Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que Marc Ribou, donc c'est cette période des années 60, il s'est passionné pour les indépendances africaines, l'indépendance de l'Algérie. Et il aimait beaucoup photographier les foules. Donc là, on retrouve des grands formats de foules. On peut détailler tous les visages. Et c'était aussi un clin d'œil à l'éditeur Le Bec en l'air, qui, à l'époque où ils ont publié le livre Algérie Indépendance, était basé à Manosque.
Avec également des compositions dans ces photographies qui sont superbes, où on sent une marque véritablement, j'allais dire, quasi architecturale.
Marc Ribou, quand il était enfant, c'était quelqu'un qui n'était pas un bon élève, mais il a toujours aimé la géométrie. Donc il s'est toujours intéressé à ces formes géométriques. Quand il a commencé à regarder la photographie, à en faire, dans les années 40, c'est quelque chose qu'il recherchait. Et ensuite, évidemment, il a poursuivi dans cette voie. Et il avait comme maître, quand il était jeune photographe, Henri Cartier-Bresson, qui avait 15 ans de plus que lui environ, qui lui a donné beaucoup de conseils et qui l'a encouragé à poursuivre dans cette voie.
Est-ce qu'on peut dire, en regardant ces photos, il y a très souvent le personnage principal, c'est l'homme, de manière générale. Est-ce qu'on peut dire que c'est un photographe social ?
Alors, social, je ne sais pas, parce que je pense que pour être un photographe social, il faut adopter un point de vue, peut-être plus tranché. Marc Ribou, souvent, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a un recul. Il ne reste pas forcément longtemps dans les endroits qu'il photographie, donc il a vraiment un regard d'étranger, et il le sait. Par exemple, dans ses photographies de Chine, même s'il y allait beaucoup, il sait qu'il reste un étranger. Il n'essaye pas de s'assimiler à la vie d'une famille ou d'un village. Donc il a ce recul et une prise de parti qu'on peut deviner dans certains reportages. Mais pour ça, il faut lire l'image.
Dernière question, comment est-ce qu'après la disparition d'un géant de la photographie comme Marc Ribou, son œuvre continue à exister ?
Elle continue à exister en la montrant par des livres, par des expositions comme ici à Manosque. Et il y a encore beaucoup de lieux qui n'ont pas exposé le travail de Marc Ribou, donc on sait qu'on a encore beaucoup à faire. Et également, un de ses souhaits qu'on est en train de réaliser, c'est que son archive rejoigne les collections d'une institution publique. Donc on est en train de préparer le legs de son fonds au musée Guimet à Paris, le Musée National des Arts Asiatiques. Donc comme il a beaucoup voyagé en Asie, évidemment c'est un mariage intéressant et on est en train de préparer cela.